On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM et www.rfpp.net.
Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Émission militante, culturelle alternative, musicale.
Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais.
Avec FPP, fais faire un pas de côté à tes oreilles.
En France, les électeurs, pour la deuxième fois de l'année, sont allés aux urnes pour approuver ou rejeter le projet de constitution présenté par l'Assemblée constituante. Dans la métropole, comme dans les territoires d'outre-mer, le peuple de France avait un mot à dire, oui ou non. Par 9 2 467 oui, contre 7 790 676 non, les électeurs ont approuvé le projet. Il y a eu plus de 7 millions d'abstentions, environ le tiers des votants. La France a enfin une constitution. Souhaitons qu'elle facilite le redressement du pays.
Bonjour à tous, il est 16h passé sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel, toujours sur 106.3 avec Fatma Micro et je vous retrouve pour une dernière émission avant de laisser la place à notre prochain cycle qui porte sur la démocratie. Après des primaires tumultueuses, un premier tour imprévisible et un dernier débat pour le moins comique, ça y est, Emmanuel Macron est président. Fini le feuilleton des présidentielles, à l'attaque les législatives. Et qui dit législative, dit député, dit loi, décret, constitution. C'est notre mot-clé de l'émission et il nous fait remonter le temps jusqu'à la prise de la Bastille.
Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait tout, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dans la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans la Carmagnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Lutter pour pas chez nous, plus de richesse et vous. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son du canon. Qu'est-ce qu'on dit aux républicains, qu'est-ce qu'on dit aux républicains. Du fer, du plomb aussi, du pain, du fer, du plomb aussi.
Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen, consacrés par la Déclaration des droits de citoyen et de l'homme de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Voilà comment est introduite la Constitution de la 4e République française, celle du 27 octobre 1946. Si ce n'est pas la version la plus récente des lois régissant la République, c'est bien celle de 1946 qui inspire principalement la constitution de la 5e République, celle qui est en vigueur aujourd'hui. Évidemment, il y a eu une 15e et une dernière constitution avec l'instauration de la 5e République par Charles de Gaulle en 1958. On y revient d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission.
En France, l'instabilité est née d'une constitution qu'une opinion trop divisée n'a jamais réussi à amender, malgré 99 propositions de révision en 12 ans. Opinion de Georges Bidault, le 10 juin 55. La nécessité d'une révision n'est plus contestée. Edgar Faure, le 17 janvier 52. Cette réforme conditionne l'avenir de nos institutions. Mendès France, le 3 juin 53. Je demanderai au Parlement d'examiner très prochainement la réforme constitutionnelle. Guy Mollet, le 31 janvier 56. Le premier problème est celui de la réforme de nos institutions. Antoine Pinet, le 6 mars 52. Une réforme de la Constitution est nécessaire. Christian Pinault, le 8 février 1955, souligne la volonté du gouvernement de s'attacher à la restauration de l'autorité de l'État. Pierre Pfimelin a dit
« Je sais par expérience que nos institutions fonctionnent mal. Je sais que de grands changements sont nécessaires. »
Paul Reynaud a dit
« Il faut réviser la Constitution. La stabilité de nos gouvernements afflige nos amis dans le monde et fait la risée de nos ennemis. »
Eh oui, le changement c'était maintenant, et c'était Charles de Gaulle en 58, bien avant François Hollande et bien avant les présidentielles de 2012. Le slogan ne date sûrement pas d'aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas l'impression que ça change vraiment, si.
Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement changé. La confiance a remplacé l'angoisse. L'unité nationale a empêché le déchirement. Et le référendum du 28 septembre a proclamé le renouveau de la France.
Alors si on calcule bien, en 300 ans, la France a connu depuis la Révolution 14 ou 15 constitutions différentes, qui se basent toutes plus ou moins sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen datant de la Révolution française. Le préambule actuel renvoie d'ailleurs directement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui défend elle-même en principe les droits des citoyens français et pas que, sans qu'elle rentre trop dans les détails. Comme la plupart d'entre nous l'avons peut-être appris à l'école primaire, les déclarations des droits de l'homme énoncent des principes à la limite du philosophique et de la morale, sans qu'ils aient de vraies valeurs juridiques. Ces mêmes valeurs n'ont d'ailleurs pas été appliquées tout de suite. Elles ont dû attendre l'après-guerre en France pour passer de belles promesses utopistes à des droits fondamentaux concrètement appliqués. Le suffrage universel, par exemple, est passé par plusieurs étapes de rectification avant de devenir direct et accessible à tous. Et lorsqu'on dit tous, c'est bien les pauvres, les femmes et les personnes de couleur. On peut dire donc que ce texte n'a pris pleinement sa dimension que plus d'un siècle entier après la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM et www.rfpp.net.
Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Émission militante, culturelle alternative, musicale.
Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais.
Avec FPP, fais faire un pas de côté à tes oreilles.
Comme promis, l'émission de ce vendredi tourne autour de la Constitution française de 1791 à l'heure actuelle. Et comme 300 ans, bah ça passe vite, on va en un premier temps se rafraîchir la mémoire. On va attaquer un peu d'histoire constitutionnelle, ça ne fait jamais de mal à personne. Au téléphone avec nous, André Bellon, le président de l'Association pour une Constituante. André Bellon, vous étiez député PS des Alpes-Haute-Provence entre 81 et 88. Vous étiez ensuite à la tête de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que vous vous retiriez de la politique. André Bellon, vous écrivez régulièrement pour Le Monde diplomatique, vous avez plusieurs ouvrages et vous développez une réflexion critique sur la mondialisation et sur la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Depuis 2007, vous militez pour une constituante citoyenne à travers l'Association pour une Constituante, votre association. On y revient un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, à parler avec nous, André Bellon, de l'histoire des constitutions françaises.
Radio FPP.
C'est pas uniquement faut-il changer la constitution, c'est qui la change et dans quel contexte.
Émission spéciale Constitution.
Alors bonjour André Bellon, vous êtes président de l'Association pour une Constituante. Et puis vous êtes avec nous pour parler donc de la Constitution actuelle ou précédente des constitutions de la République française. Ce qui intéresse notre émission, c'est de voir ce qu'a apporté chaque constitution par rapport à l'autre. Donc à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789, et ensuite la première constitution de 1791, et voilà, et ainsi de suite, ce que chaque constitution a apporté de différent ou de grandes différences par rapport à la précédente.
Savoir que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'on oublie souvent de dire « et du citoyen », n'a été mis que dans le préambule de la Constitution qu'après la Libération, en 1946. Jusque-là, elle existait, on la placardait sur les murs éventuellement, mais elle n'était pas dans le texte constitutionnel. Ensuite, il y a, suivant les moments, suivant les constitutions, suivant les rapports de force, suivant la vie publique et suivant les forces politiques, un certain nombre de principes qui sont ou qui n'y sont pas. Bon, par exemple, dans les premiers textes après la révolution de 1848, il y avait le droit au travail. Bon, ça n'y est plus aujourd'hui. Peut-être qu'il faut réfléchir sur ce genre de choses. Le droit social.
Pour parler toujours du préambule, en fait, il y a certains principes qui restent philosophiques ou moraux, mais qui n'ont pas été appliqués tout de suite. Il n'y avait qu'une certaine partie de la société, donc essentiellement la bourgeoisie, qui pouvait élire ses représentants. Ensuite, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les personnes de couleur ou de religion différentes n'avaient pas les mêmes droits. Et tout cela, qui est censé être... appliqué ou présent dans les principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était des principes qui sont restés théoriques, mais sans être appliqués.
Alors, si on revient sur l'histoire, contrairement à ce qu'on pourrait espérer, c'est quelque chose d'assez lent. C'est-à-dire que les évolutions, elles ne se font pas du jour au lendemain, on ne passe pas du tout noir au tout blanc. Hein. Il y a des étapes. Alors la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, d'abord elle dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire que la notion de l'égalité est une notion juridique. Parce que jusque-là, il y avait des droits différents suivant que vous apparteniez à la noblesse, au clergé, au tiers-état, etc. C'est-à-dire qu'on fonde un droit unique. Et ça, c'est effectivement un progrès tout à fait important. Pas pour autant qu'on a créé l'égalité sociale dans les rapports sociaux entre les individus. Mais il n'y avait plus qu'un droit. Donc ça, c'est quand même un progrès historique. Alors ensuite, sur le plan politique, il est parfaitement exact que dans les premiers temps de la Révolution, ce qu'on a appelé le suffrage, c'est-à-dire le fait qu'on passait d'un système de pouvoir absolu concentré sur le roi, un système, c'est-à-dire de souveraineté qui avait été transféré du droit à la nation. Hein, on se souvient de la phrase de Bailly dans la fameuse séance, vous savez, au Mirabeau, le représentant du roi vient leur dire, vous avez entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Et Bailly, qui était le président potentiel, de la non moins potentielle Assemblée nationale, lui répond « Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. » Donc il pose bien le problème de la souveraineté qui passe du roi à la nation. Ça, c'est un changement tout à fait fondamental. Le problème ensuite, c'est la nation désigne les pouvoirs et donc ses représentants. Comment ? Et dans un premier temps, ils décident que ça sera par élection, mais au suffrage censitaire, c'est-à-dire les plus riches. Il y a la phrase célèbre de Camille Desmoulins disant « Avec ce système, Jean-Jacques Rousseau n'aurait pas eu le droit de vote ». Et ça, c'est un système qui se maintient jusqu'en 1792, c'est-à-dire jusqu'au renversement de la monarchie. Le roi est renversé, il y a une insurrection populaire, qui prend les Tuileries d'assaut, et le roi, à partir de là, est emprisonné. D'où l'élection d'une nouvelle assemblée, qu'on appellera la Convention, et celle-là, non plus au suffrage censitaire, mais au suffrage universel. Alors, reste la question, effectivement, que vous évoquez, de savoir si tout le monde y est représenté. Là, sur les religions, il n'y a aucun problème. En revanche, il n'y a pas le droit de vote des femmes. En tout cas, elle n'était pas élue, ça c'est certain, c'est une assemblée d'hommes.
Elle ne pouvait pas élire.
Et uniquement d'hommes. Sur la question des hommes dits de couleur, il y a une première abolition de l'esclavage qui est faite en 1794, sous l'impulsion d'un certain nombre de conventionnels. Cela étant, la question avait été posée dès l'origine de la Révolution. Et en particulier dans la fameuse nuit du 4 août, celle de l'abolition des privilèges, que les Noirs soient considérés comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de distinction de couleur. Mais ça n'avait pas été suivi d'effet. Mais la question est posée très tôt. Et il y a une première abolition de l'esclavage en 1794, qui malheureusement est remise en cause par Napoléon, qui lui rétablit l'esclavage, ce qui donne lieu à tous les événements qu'on connaît, en particulier à Saint-Domingue, la révolte de Toussaint-Louverture, etc. Donc il y a eu en France deux abolitions de l'esclavage, effectivement, celle dont on parle tout le temps en 1848, mais la première dont on parle moins en 1794.
Personnellement, je considère que peut-être le plus grand événement ou le plus grand changement ensuite dans la Constitution, c'était la séparation de l'Église et de l'État.
La séparation de l'Église et de l'État, c'est sous la Troisième République.
Oui, la Troisième, pardon.
1905. Je pense que là aussi, il faut regarder les problèmes dans leur évolution. Il est vrai que sous l'Ancien Régime, le pouvoir, c'était un pouvoir absolu, donc concentré sur le roi, mais un roi de droit divin. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir séparation entre Église et État, puisque le pouvoir procédait du roi qui lui-même était roi, comme on disait. Il avait l'onction divine. Voilà. Donc la séparation était impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès l'origine, Louis XVI, dans 1789 déjà, n'est plus, dès la première constitution, n'est plus roi de France, mais roi des Français. C'est-à-dire que sa souveraineté ne procède plus du divin, mais de la nation. Cela étant, même s'il y a l'idée qu'il y a une liberté religieuse absolue, ce qui n'existait pas auparavant, il n'y a pas séparation des églises et de l'État, puisqu'aussi bien il y a ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'on demande aux prêtres d'être au fond des fonctionnaires. Donc il n'y a pas du tout séparation. Mais il y a certaines tentatives sous la Convention, en particulier sur ce qu'on a appelé la Convention thermidorienne, c'est-à-dire après le renversement de Robespierre, pour faire une séparation Église-État. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a des tentatives. Et cette question de la séparation va continuer depuis l'origine de la Révolution jusqu'en 1905, où là on tranche définitivement. Non, rien n'est jamais définitif, mais on tranche légalement par la loi de séparation des Églises et de l'État. Oui.
L'histoire commence à la Révolution et en arrive à Charles de Gaulle, à la Ve République et à la Constitution actuelle. Nous étions avec André Bellon, ancien député PS et président de l'Association pour une Constituante, un organisme qui milite pour une réécriture de la Constitution par le peuple. On revient dans quelques minutes après No More Auction Block for Me de Odetta, à tout de suite sur Fréquence Paris Pluriel.
No more auction. Block for me. No more, no more. No more auction block for me. Any thousand gone.
De retour sur 106.3 et vous écoutez toujours Fréquence Paris Pluriel. On vient d'écouter à l'instant Odetta et sa reprise du chant populaire afro-américain No More Auction Block for Me, plus jamais de vente aux enchères pour moi, un chant des esclaves dans les plantations du sud des États-Unis.
Radio FPP.
C'est pas uniquement faut-il changer la Constitution, c'est qui la change et dans quel contexte.
Émission spéciale Constitution.
Ce vendredi, l'émission Archives FPP retrace l'histoire de la Constitution française, des droits sociaux acquis depuis la Révolution et jusqu'à la Ve République. La suite avec l'auteur Alain Tréhard pour en savoir un peu plus sur la genèse de la Constitution française. On est en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que au lendemain de la guerre, le principe dans les discussions, c'est de remettre en place une constituante qui soit quelque chose qui permette de réinstaurer la République en France, et se pose la question des partis politiques. C'est-à-dire que très rapidement, même si y a certains partis politiques sont évacués, qui ont joué un rôle de collaboration pendant la guerre, sont évacués, les partis restent présents et prennent une place importante et souhaitent remettre en place l'influence qu'ils avaient. Le général de Gaulle, qui lui, au contraire de ça, tend à apporter plus de rigueur, plus d'autorité, qui permettrait, soi-disant, de résister aux guerres. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que le général de Gaulle fait renaître un peu cette peur qui existait depuis les deux précédents Napoléon et ce qu'ils ont été capables de faire, en proposant une république où le président ne serait plus élu par son Parlement, mais serait élu par suffrage universel.
Et il a réussi à le faire.
Alors,
pas la première fois, mais la deuxième fois.
Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les partis politiques étaient, au contraire de ça, très favorables à ce qu'il y ait cette assemblée unique en capacité de tout maîtriser. Le général de Gaulle estime qu'il peut lutter contre ça en créant un pouvoir présidentielle plus important.
Comme vient de nous le dire l'auteur Alain Tréhard, la Constitution est écrite à l'image des partis politiques et non à l'image de ceux qui les ont élus au pouvoir. Le président de l'Association pour une Constituante, André Bellon, nous explique le processus de la souveraineté hier et aujourd'hui.
Quelque part, le peuple n'est pas réellement souverain. Il y a un vote, mais qui n'affirme pas cette souveraineté. Si vous voulez, il y a dans les constitutions, on peut les voir de deux manières. On peut les voir d'abord comme l'affirmation de, je prends un mot un peu vulgaire, qui est sans doute pas le meilleur, mais disons la règle du jeu politique. C'est-à-dire, on va élire des gens, ou bien on va arriver à un pouvoir. Quel est ce pouvoir? Quelle est sa légitimité? Qui le désigne d'une certaine façon? Ça pose tout le problème, et je crois que c'est ça le problème actuel d'ailleurs, le problème de la souveraineté, de la souveraineté populaire. Du moins si on se veut en démocratie. La définition même de la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Donc la question qui se pose depuis l'origine des constitutions, c'est-à-dire donc depuis les États généraux de 1789, c'est comment affirme-t-on la souveraineté du peuple français? Bon, cette souveraineté, on se rend compte aujourd'hui, au travers de la dernière élection, donc celle qui s'est déroulée il y a quelques jours, qu'elle pose problème. Bon, après une campagne complètement extravagante, on est arrivé à un président de la République qui a été élu dans des conditions quand même assez bizarres, et par défaut. Il a fait, en fait, sa légitimité, c'est essentiellement le premier tour. Mmh. Puisque le deuxième, c'est les alliances, et c'est surtout le refus de l'autre. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment une adhésion à lui. Bien. Donc au premier tour, il fait 18,2% des électeurs. sa légitimité claire, elle est là. On ne peut pas dire que ce soit une légitimité très forte. Au deuxième tour, même avec les conditions, c'est-à-dire le fait qu'il a bénéficié du rejet de l'autre, mais même avec ça, il fait 43%. Donc, même là, ce n'est pas la majorité des inscrits. Il y a une participation très faible, il y a 25% d'abstention, il y a 12% de blancs et nuls par rapport aux exprimés. Donc on voit bien qu'on est dans une crise de régime et dans une crise de légitimité. Et cette question, elle est posée depuis l'origine des constitutions. Il faut que nous ayons une constitution qui donne aux élus une réelle légitimité, c'est-à-dire qu'ils représentent effectivement les citoyens. Est-ce que il doit y avoir des textes dans la Constitution qui sont des textes de principe? En 1789, ce fut la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une déclaration de principes qui se veulent universels. Voilà comment doit fonctionner une société, sur quelle base elle doit fonctionner. Donc, cette déclaration, elle est fondamentale. Et on la retrouve d'ailleurs d'une autre manière dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire celle qui a fondé d'une certaine façon les Nations Unies.
Exact.
Donc il est important de rappeler que ces textes fondent la pensée de la vie collective, de la vie politique, de la vie publique. On peut les rechercher et y réfléchir. Je crois que ça serait un des éléments de la période actuelle que de dire qu'on doit créer partout le débat sur ces textes. Pourquoi ont-ils été faits? Quelle est leur importance? Quelle est leur valeur?
Le peuple souverain, c'est l'un des principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution. Aujourd'hui, la souveraineté de ce peuple est mise entre parenthèses, mise au placard, bafouée. C'est comme on veut. Depuis 10 ans déjà, plusieurs associations et organismes indépendants travaillent sur un projet qui réécrit la Constitution. L'objectif? Redonner au peuple sa souveraineté et son pouvoir de décision. On est toujours avec le président de l'Association pour une Constituante, André Bellon.
Là, j'ai l'article 28 sous les yeux. Et donc, je cite « Le peuple a toujours droit de revoir, de réformer, de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. »
Alors d'abord, on vit avec la même constitution, c'est vrai et c'est faux. Mmh. Il y a eu quand même quelque chose, je n'ai plus le chiffre en tête, mais comme 24 ou 26 modifications, et certaines qui sont venues être mineures. Donc ce n'est pas vraiment la même constitution que 58. Donc c'est une constitution qui non seulement a gardé ses défauts d'origine, mais les a accentués. Bon, l'Association pour les Constituantes, son objet, c'est de faire effectivement une constituante. Cela étant, cet objet, c'est l'aboutissement de notre travail. C'est la reconstitution du peuple. Nous considérons que nous sommes dans une période où le peuple n'est plus considéré comme souverain. Bon, on en a des preuves tous les jours. Hein. Bon, la pire, ça a été le référendum de 2005, où le peuple vote non et on met oui quand même. Donc il faut reconstituer le peuple et il faut redonner aux citoyens tous les attributs de la citoyenneté. Il faut que nous trouvions au niveau le plus déconcentré la souveraineté des citoyens, la reconstitution du citoyen dans tous ses attributs, c'est-à-dire le droit de critique, le droit de proposition, le droit de contestation, c'est-à-dire la liberté. Qu'on retrouve cette volonté au niveau le plus fin et que toutes ces volontés ensemble donnent la volonté de la nation. La situation telle qu'elle est aujourd'hui mène inévitablement à des affrontements graves parce que justement, elle cherche à contourner systématiquement la volonté collective. Et donc cette reconstitution de la volonté collective, ce n'est pas uniquement par principe que nous y tenons. C'est parce que nous pensons que c'est la sortie pacifique, rassembleuse, démocratique à une situation qui devient de plus en plus grave. On le voit chaque jour. Et c'est pas parce qu'on vient d'élire quelqu'un que le problème a disparu.
La volonté pour une constitution revue et réécrite par le peuple est une volonté partagée par beaucoup d'organismes et beaucoup d'associations, dont l'Association pour une constituante dont André Bellon est président. Ces organismes se retrouvent régulièrement dans plusieurs villes et plusieurs communes de France pour discuter d'une constituante citoyenne. À Paris, c'est à la place de la République que plusieurs petits groupes de citoyens tiennent leur agora pour une constituante citoyenne en fin d'après-midi. J'ai retrouvé samedi dernier Antoine Guigné, responsable de la commission Jury Citoyen Debout à la place de la République.
Pour justement empêcher que les informations aillent dans des... tout ce qu'ils disent, en fait, aillent dans des bases de données. Ils peuvent ensuite... du coup, il y a deux risques. C'est déjà possible, il faut se donner l'information que vous faites pour ces informations.
Pourquoi on fait la Constitution, nous, dans les mouvements démocratiques? C'est parce que on pense... Bon, d'abord, il y a deux choses dans la Constituante citoyenne. C'est qu'un, nous, on est pour que le citoyen soit le politique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on dit le citoyen, c'est le politique. Donc, c'est lui qui doit décider de ce qu'il veut, de comment la société doit être gérée. C'est pas les politiques qui sont élus, en tout cas pas seulement, qui doivent tout décider. Et donc la constituante citoyenne, ça permet de décider ensemble qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir dans une constitution. Et donc la constitution, pourquoi la constitution aussi? C'est parce que c'est l'occasion de remettre un peu tout à plat. Un peu comme tu avais eu les états généraux pour faire le Conseil national de la résistance, on remet tout à plat, qu'est-ce qu'on veut pour l'économie, qu'est-ce qu'on veut pour les pouvoirs, comment on voit les élus, comment on voit l'environnement comme fondamental de la société, comment on définit les droits fondamentaux, que ce soit le logement, etc. Et qu'est-ce qu'on voudrait, surtout à long terme, dans une constituante.
Mais en fait, c'est pas les gens, mais le principe, c'est qu'on sélectionne des personnes, donc ils seront les élus après ou les députés, pour écrire à notre place.
Il y a plusieurs process constituants. T'as un process constituant que nous on suit un peu, qu'un process constituant citoyen qui a été développé par la Fondation Hulot et par des experts de la démocratie qu'on connaît comme Loïc Blondiaux, Dominique Bourg, qui sont des chercheurs en fait. Et où en fait tu as une première phase où c'est des tables rondes citoyennes. Et c'est un peu ce qu'on fait là, c'est des assemblées préconstituantes. Si un jour on lance la constituante citoyenne, ça voudrait dire que le président, sous la pression populaire ou parce qu'il y a un événement, il dit bon ok, on va faire une constitution. Et je lance une constituante citoyenne, donc il fait un référendum et on peut faire une constituante citoyenne. Et la première étape, c'est pendant 3 ou 4 mois, on fait des tables rondes dans toute la France et tout le monde s'exprime sur qu'est-ce qu'on voudrait pour le futur, pour l'avenir, nos droits, etc. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait sur la place. On fait cette forme-là où on parle d'une manière générale qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans la constituante, la constitution, et par thématique, qu'est-ce qui nous paraît important de mettre dans la constitution.
Et ensuite, vous regroupez ces propositions-là et vous les transmettez
voilà.
À qui, en fait?
Alors, pour l'instant, on va les regrouper. On va les publier, on va les diffuser sur Internet et on va essayer peut-être de les envoyer aux politiques. Hein. On fera un document et puis on dira voilà, nous, citoyens de la place de la République, voilà, ça, c'est nos revendications et tenez-en compte. Voilà. Donc l'idée, c'est peut-être que ça continue après, tu vois, là, on va déjà aller jusqu'à fin juin et peut-être que ça continuera en septembre sous des formes différentes. Mais l'idée, c'est de faire du politique localement sur les places. Et de le diffuser sur Internet, de le diffuser sur des chaînes pour que les gens ils se disent « Ah ben oui, il faut qu'on fasse ça » et qu'il y ait plein d'assemblées citoyennes, ou de préconstituantes ou d'assemblées citoyennes dans toute la France.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Les assemblées citoyennes, ça fait depuis le 8 avril qu'on fait ça. Et moi, je faisais l'année dernière la commission jury citoyen à Nuit Debout. Donc on parlait des jurys citoyens, c'est les citoyens tirés au sort. Qui décident sur des sujets de société ou qui sont informés sur des sujets de société, souvent sur des thèmes précis. Par exemple, on pourrait faire le nucléaire. Qu'est-ce qu'on veut pour le nucléaire pour dans 20 ans, 30 ans, 50 ans? Et pendant un mois ou deux mois, tu as des gens qui sont formés, tirés au sort, comme des jurys d'assises. On va juger le nucléaire. Et il y aura l'avocat, il y aura la défense. Et à la fin, les citoyens, ils vont délibérer, ils vont faire un avis et ils diront, voilà, on pense qu'on peut garder un peu ou pas, ou faut supprimer tout de suite ou maintenant, et ça se passera comme ci, comme ça, comme ça.
Il y a des sujets qui reviennent souvent quand vous faites vos assemblées un peu partout en France.
Il y a quelques trucs par rapport à la démocratie. Bon, on parle beaucoup de tirage au sort. C'est-à-dire que, par exemple, changer le présidentialisme, en fait. Tu as eu les élections. Bon, il y a eu un président, on a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et beaucoup voient du tirage au sort. Qu'il n'y ait pas que des élus, qu'il y ait des assemblées locales. On a parlé de décisions au niveau local, national, etc. Donc il y a beaucoup ça sur la démocratie. Après, sur l'économie, il y a l'idée qu'il faut qu'on ait toujours des droits fondamentaux, qu'il y ait un minimum pour vivre, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'éducation, qu'il y ait la santé. Que ça, c'est comme si c'était des droits qu'il fallait qu'on mette dans la Constitution. Pour qu'on soit sûr que la société elle aille dans ce sens-là, de ne pas laisser les gens sur le bord de la société, si tu veux. Et il y avait aussi un peu, pas mal l'écologie, il y a un droit pour l'environnement, mais un droit fort pour ce qu'on pourrait appeler les non-humains, que ce soit la nature ou les animaux. Dans la Constitution française, aujourd'hui, c'est vraiment des mécaniques de répartition de pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de droits fondamentaux. Il y a un petit peu, mais un petit peu dans le préambule, mais c'est pas très fort, c'est pas très détaillé. Après, il y a aussi un autre truc dont on a parlé, c'est les médias citoyens, l'information, l'éducation libre, qui n'est pas du tout dans la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie, mais on voit que les médias, ils ne sont pas objectifs. En tout cas, les médias sont souvent achetés par des intérêts financiers. Donc comment on peut parler justement de la création monétaire ou de changer le système financier si les médias sont aux mains des financiers qui, eux, ont cette vision du monde? L'idée que les gens soient éduqués pour décider de manière citoyenne, c'est important. Tu vois, donc toute cette activité, elle n'est pas du tout dans la Constitution. Voilà, mais là, nous, ce qu'on fait, on ne rentre pas encore dans le détail du texte, c'est plutôt une espèce de cahier des charges, qu'est-ce qu'on voudrait avoir dedans. Et après, quand ça partira, on aura dit, voilà, on veut ça, ça, ça et ça. Tu vois.
Et moi, je m'attendais à ce que tu me dises que ça a commencé il y a 10 ou 20 ans, en fait.
En fait, la réflexion sur la constituante citoyenne, non, elle existe depuis plus longtemps, dans des mouvements, bon, notamment tous les mouvements qui viennent d'Étienne Chouard, qui était le premier à parler de la constituante citoyenne en 2005, suite au référendum. Voilà, bon, auquel on partage pas tout, parce qu'Étienne Chouard, il a été un peu polémique par rapport à certaines positions, par rapport à des mouvements d'extrême droite, donc je suis pas pour, quoi, en tout cas, je suis pas affilié à ce truc-là, mais c'est lui qui a quand même monté ce truc-là, et qui avait l'idée que la Constitution soit faite par les citoyens, et que si on fait une réforme constitutionnelle, ce soit pas les politiques qui se contrôlent eux-mêmes, mais ce soit les citoyens. Donc et il revenait au tirage au sort, notamment, donc c'est lui qui était le grand théoricien, en tout cas le grand militant du tirage au sort, en revenant à l'esprit athénien. Tu vois, donc c'est des gens qui ne sont pas partisans, qui ne recherchent pas des intérêts personnels, etc. Aujourd'hui, le problème des politiques, c'est qu'ils veulent garder leur place. Tu vois.
Ils pensent à leur parti avant toute autre chose. En fait.
Et ils pensent à leur place, même à eux. Quoi, tu vois comment ça se passe aujourd'hui. T'as Macron qui arrive, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Les mecs de gauche, ils savent plus quoi faire. Les mecs de droite, oh, je vais où. Donc en fait, tu vois bien que le politique aujourd'hui, de la politique représentative, t'as des mecs qui sont des professionnels de la politique, qui te racontent tout et n'importe quoi, qui te regardent dans les yeux en disant « mais oui, ça va être super ». À côté de ça, il faut quand même que tu aies des citoyens, et c'est pour ça qu'on est pour le tirage au sort souvent, des citoyens tirés au sort, donc soit pour faire la constituante, soit à côté de l'Assemblée nationale. T'as un projet qui s'appelle Sénat citoyen. Tu vois, donc tu équilibres en fait entre des gens un peu professionnels, parce que bon, il en faut quand même pour faire avancer les choses, etc., et des citoyens qui tirent au sort, qui n'ont pas d'avis et qui donc ont le bon avis.
La critique première, je pense, quand on parle de ce genre de système, c'est que les gens disent « oui, mais un citoyen lambda, il n'a peut-être pas l'éducation ou le savoir nécessaire pour décider ou proposer des articles ou des lois, en fait. »
Ça, c'est une idée fausse. C'est ce que disent aussi les gens de Saillant. Saillant, c'est la ville où les habitants sont constitués en liste participative et ont pris le pouvoir. Donc le maire, c'est un maire participatif, c'est pas lui qui décide, c'est des comités de quartier, etc. Et ils disent, t'es l'expert de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as 25 ans, t'es expert de ta vie. On va pas te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu sais ce qui va ou ce qui va pas. Donc, par rapport à ce que tu veux et à la vision politique de quelle société on veut, on sait ce qu'on veut. On n'a pas besoin de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Pour écrire la Constitution, ce qui est un deuxième niveau, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un truc, les citoyens peuvent se faire aider par des constitutionnalistes ou ils peuvent faire ça avec des spécialistes. Si tu as une assemblée constituante, parce que là, nous, ce qu'on fait, c'est une assemblée pré-constituante. Mais l'assemblée constituante, admettons qu'il y ait 1000 personnes désignées pour le faire, etc.
Il y a eu des gens qui étaient venus comme ça sans être spécialement invités, qui n'étaient pas au courant?
Il y a beaucoup de gens qui passent et qui interviennent. C'est ça le principe. Donc tu as des gens qui reviennent, etc., mais tu as beaucoup de gens non, qui sont là juste pour donner leur avis.
Après,
il reste quelque chose dehors. On a gagné plein de places, c'est génial, on va pouvoir dormir dedans.
Camille, vous installez quoi là?
On déménage. La mini agora que Archie Debout a prévu pour l'assemblée constituante, l'assemblée pré-constituante pour l'instant, l'émission constituante. Voilà. Puisque vous avez parlé du processus constituant avec Antoine, vous savez que donc sur la place de la République tous les samedis, je suis essoufflé parce qu'on bosse. Donc pour l'instant la mobilisation est redescendue, mais grâce à cette mini agora qu'on va pouvoir mettre soit sur cette partie quand elle est vide, soit sur une autre partie de la place, au milieu, n'importe où. Il peut y avoir au moins 30 personnes à l'abri de la pluie, tout l'hiver. C'était pas beaucoup de monde, mais à l'échelle locale, pour une assemblée locale, en fait, c'est beaucoup de monde. Quand on est 30, c'est des riverains qui passent. Il y a des touristes qui se mêlent, mais c'est des riverains. Alors on peut ranger nos camions et continuer notre boulot. Super pour le tien, bravo.
Merci.
Pour bosser.
Voilà, c'est bien.
Donc là, on monte le panneau principal pour l'installer. On y va. Ça va, c'est pas trop lourd ?
Non, ça va.
Et on s'installe juste au centre de la place. Il y a déjà des gens qui sont prêts, qui nous attendent. Enfin, qui attendent l'assemblée.
Moi, je vois un énorme avantage en fait à être complémentaire, puisque dans un atelier constituant, l'idée c'est de réveiller les consciences, etc., d'apprendre aux gens à être légitimes, à se responsabiliser, à voir que c'est pas si dur, que c'est accessible, de penser à comment on encadre les lois ou le pouvoir, etc. Par contre, le citoyen, ce qui peut lui servir, en fait, c'est de commencer à participer à l'écriture des lois, tout comme, à un moment donné, ça va devoir l'amener à comprendre comment on encadre le pouvoir. Ou voir l'inverse, on le fait comprendre comment on encadre le pouvoir d'abord, et à un moment donné, dès qu'on a voix, la plateforme est en place, parce qu'on va avoir 43 députés dans les 43 circonscriptions où on se présente. Il y a des gens qui, aux quatre coins, en fin de compte, de notre pays, et je parle au sens large, même de la planète, il y a des initiatives citoyennes, solidaires, sociales, de partage, d'échange, de trouver l'équilibre en soi, d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et en fait, beaucoup de gens tout au long de nos vies nous disent que le changement, en fait, c'est pas possible, en fait. C'est impossible.
Des assemblées de gens, d'hommes et de femmes qui se réunissent, qui échangent, qui disent des choses dont on prend note et qui, dans un deuxième temps, pourraient servir d'apport d'idées à ce que pourrait être une constitution, puis le choix d'une assemblée. Le choix, c'est-à-dire ou l'élection, ou le tirage au sort, ou est le tirage au sort, de gens qui vont élaborer et rédiger ces constitutions, et pour une dernière étape qui est le référendum sur la base d'une constitution. Voulez-vous cette constitution, oui ou non ?
Toi, en tant que citoyen, qu'est-ce qui t'avait lancé dans ce genre de mouvement ?
Eh bien, ça fait maintenant un an que nous avions organisé déjà à l'automne dernier une série de tables rondes qu'on a appelées tables rondes citoyennes. Et nous voulions que, à l'occasion du débat sur l'élection présidentielle et législative qui suit, on est en plein dedans, alimenter le débat pour que ce soit autre chose que des querelles de personnes à la con. Et que vraiment on parle de sujet. Et moi je trouve que le processus est vachement intéressant. Graver dans le marbre une constitution, j'espère qu'elle est évolutive et qu'elle est mouvante, qu'elle est vivante. C'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, le processus, c'est-à-dire la façon dont ça se construit, ça, c'est super intéressant. Et actuellement, parce que on n'aborde pas ces sujets-là, on passe à côté des enjeux majeurs qui sont des questions de vivre ensemble, d'environnement.
Où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on le fait ensuite ?
Tu vois, par exemple, là, voilà une association qui s'appelle Ma Voix, qui est ici, et qui fait un cercle et qui débat sur... eux, ils abordent la chose d'une façon un peu différente, mais qu'il est bon qu'elle soit aussi mise sur la place publique, justement, au sens propre et figuré, quoi. C'est, ils disent, nous, on n'a pas de programme, mais ce qui nous importe, c'est que les citoyens puissent s'en saisir et définir leur programme à partir de rien. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que tous les samedis, à 17h, on est là. Et on organise les échanges de paroles.
Et
on fait tourner le bâton
par là. Vous avez une thématique en particulier.
Oui, cette semaine, ça va être sur la question de la création monétaire.
Actuellement, on voit émerger le sujet constituante, beaucoup. Et ça va devenir le sujet fort peut-être du quinquennat, là où ils vont batailler tous les partis et tous les mouvements comme nous. Peut-être que le prochain, toujours selon Antoine Guigné, c'est la création monétaire. Et pas peut-être d'ailleurs, enfin donner de moi de mon avis, non pas peut-être, c'est sûr. Parce que je vois, pour moi, c'est l'interrupteur, c'est là où le jeu du Monopoly est faussé dès le départ. Et c'est un sujet qui n'est même pas dans la Constitution. Donc même en faisant la... Et c'est d'ailleurs un sujet, à mon avis, de la Constitution. Et c'est grâce à la Constitution qu'on va arriver à la création monétaire, j'espère.
Radio FPP,
pas uniquement faut-il changer la Constitution, c'est qui la change et dans quel contexte.
Émission spéciale Constitution. C'était tout pour cette semaine. FPP vous propose très prochainement son cycle portant sur la démocratie. En attendant, je vous laisse avec la Marseillaise reprise par Casus Belli et bon après-midi à tous.
La même chose que chaque nuit, tenter de conquérir le monde.
Vive le roi, ce soir c'est la fête. On lui a mis en plus une belle couronne sur la tête. Il est fort mon roi, il a vaincu la bête. Le méchant borgne, le dragon qui crache sa haine. Il a dit qu'il allait bien s'occuper de nous. Parce que d'après lui, nous c'est lui, lui c'est nous. On l'attend un peu, retournant je l'avoue. Faudrait pas qu'il loupe un second rendez-vous. Là il a fait pour l'instant quoi, pas grand chose. En tout cas à la foire, il boit et il s'explose. Il aime bien déconner, aime bien décoller. S'envoler pour l'Asie ou bien les îles Féroé. Il est comme ça mais bon on le refait pas. Certains disent que c'est un tricheur, on ne sait pas. Il s'est jamais fait prendre la main dans le sac. Il a gagné la Coupe du Monde dans son précédent sac.
Allons enfants de la patrie, levons-nous et marchons. Contre nous ta tyrannie, l'étendard nous levons. Entendez nos compagnies, si passe un vrai drame. Soldats sortent leurs armes, passons à les fourcher la arme.
Quand les joueurs de foot ramènent la coupe, tout va bien. Le peuple est heureux, oublie son chagrin. Mais tu le sais, les soucis reviennent le lendemain. C'est pas le héros de la veille qui va te prendre en main. Donc à petit peu, le royaume s'enfonce. L'écart se creuse, les sourcils se froncent. C'est un peu normal vu qu'on n'a pas eu tous de la chance. Le roi avait dit qu'il changerait tout cela. Le peuple a faim, personne ne l'entend. Il est loin le temps des belles promesses d'antan. On n'apprécie pas qu'on nous prenne pour des gueux. Que pour des cons, on trouve ça dégueu. Donc on fait des feux, histoire qu'on nous voit. On en fume ce duo, SOS on est là. Nous sommes courageux et même téméraires. Désolé monsieur le roi si ça vous met les nerfs.
Allons enfants de la patrie, levons-nous et marchons. Contre nous ta tyrannie, l'étendard nous levons. Entendez nos compagnies, si passe un vrai drame. Soldats sortent leurs armes, passons à les pencher la arme.
Le roi est bon, il a dit qu'il allait prendre de nouvelles mesures, qu'il allait nous surprendre. Mais il est con, on veut le pain et la paix. Et lui à la place on voit un ministre de la guerre. Je sais pas si t'as compris, la France va mal. On veut qu'on nous soigne mais on nous parle mal. On va nettoyer tout ça au jet d'eau. Je crois vraiment que là ils nous prennent pour des animaux. C'est depuis cette époque là que plus rien ne va là. Révolution est en marche, ce qui va là. Gagné j'espère que ce sera le peuple. Le roi nous a trahis et ne pense qu'à sa gueule. Il avait pourtant donné de belles promesses. Tu vas voir quand on va chanter ta Marseillaise. Ce sera pas la même, oui je t'assure. Nous on veut un vrai changement, une vraie cassure.